Radio Classique, les spécialistes.
Dans une poignée de secondes, bien sûr, Emmanuel Faux et la Cour suprême des États-Unis. Mais d'abord, vous, Dimitri Pavlenko, avec le feuilleton Veolia-Suez, nouvel épisode hier. Suez, en quelque sorte, a caché son eau aux Pays-Bas. Alors, dit comme ça, ça paraît complètement abscon. Vous allez nous expliquer et on va tout comprendre. Dimitri, est-ce que ça signifie, en tout cas, la fin des hostilités entre les deux groupes industriels?
Alors, absolument pas. Et je peux même vous dire, au contraire, que c'est extrêmement mal vécu, que ce soit chez Veolia, mais aussi chez l'actionnaire de référence de Suez, à savoir Engie, qui n'a pas été tenu au courant de la manœuvre. Alors, revenons 30 secondes quand même sur cette affaire d'évasion de l'eau de Suez.
Qu'est-ce que c'est ça,
aux Pays-Bas? Alors, c'est vrai qu'a priori, on se dirait, tiens, c'est marrant, il s'enfuit dans un paradis fiscal. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Antoine Frérot. Accuser les Pays-Bas d'être un paradis fiscal, c'est déjà quand même extrêmement violent.
C'est pas totalement faux.
Oui, mais enfin, officiellement, les Pays-Bas ne sont officiellement sur aucune liste des paradis.
C'est pas le Delaware, c'est pas les Bahamas.
Non, en fait, Suez ne fait absolument pas ça pour des raisons de transfert de dividendes. Ils le font uniquement pour protéger l'actif. La technique, en fait, elle est simple, elle est légale. Ça consiste à, vous prenez une action du capital de la filiale Eau France de Suez. Il y a 42 millions de titres de cette filiale. Vous en prenez deux et vous les placez dans une fondation de droit néerlandais. Qu'est-ce que ça permet, ces deux actions placées là-bas? Eh bien, tout simplement, cela fait que si Veolia ou n'importe qui d'autre rachète l'ensemble des titres de cette filiale Eau France, il en reste deux dans cette fondation aux Pays-Bas. Ces deux actions, elles permettent au conseil d'administration de Suez de bloquer complètement, de sanctuariser, d'empêcher toute cession de cette filiale Eau France. Conséquence directe, si Veolia rachète l'entité Suez dans sa globalité, elle ne peut pas mettre la main sur ça. Elle ne peut en tout cas pas contrôler et donc ne pas vendre cette filiale Eau France.
Donc c'est moins intéressant pour Veolia.
Ah bah oui, parce que le plan de Veolia, c'est de dire j'ai un problème de concurrence en France, de concentration. Je suis trop gros si je rachète l'ensemble de Suez. Donc Veolia avait prévu de vendre cette entité Eau France. Or là, elle n'a plus de pression, elle n'a plus elle n'a plus la main sur cette entité qui est basée aux Pays-Bas et sur laquelle Suez garde un total contrôle. C'est extrêmement malin. Alors maintenant, sur le plan maintenant de capitalistique, que se passe-t-il? Veolia, si Veolia veut acheter Suez, devra vendre sa propre entité d'eau. C'est du coup extrêmement plus compliqué. Alors c'est un problème pour Veolia qui est furieux de la manœuvre de Suez, mais aussi pour Engie, parce qu'Engie est quand même l'actionnaire de référence de Suez. Et en l'occurrence, Engie n'a pas été tenu au courant. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Quid? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est fini l'opération Veolia-Suez ou pas?
Alors non. Moi je pense que ce qui va se passer, et c'est probablement ce qui est en train de se décider, Veolia et Engie se sont beaucoup parlé hier, il y a un conseil d'administration d'Engie aujourd'hui, l'État va s'en mêler, parce que l'État depuis le début dit on ne veut pas d'un clash, on ne veut pas d'une opération hostile dans le capitalisme français. Bon, l'opération, l'issue
elle est quand même... Enfin, M. Castex avait quand même dit que ça faisait sens que Veolia absorbe Suez.
Ah oui, ce qui était d'ailleurs extrêmement bizarre. Suez, en tout cas, ça les remet au centre du jeu, et ça leur permet de gagner un petit peu de temps pour tenter de bâtir une contre-offre. Affaire à suivre, et on en reparlera sans doute vendredi prochain, Bernard.
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un mois, je me souviens, à la fin du mois d'août, Suez était donné perdant, fini, ils allaient être mangés par le gros Veolia, et finalement, non, ils se défendent becs et ongles. Merci beaucoup, Dimitri Pavlenko, pour ce décryptage, et la suite, donc, peut-être avant vendredi prochain, parce que chaque jour, il y a du nouveau. Il y a du nouveau aussi chaque jour, bien sûr, aux États-Unis. Emmanuel Faux, bonjour.
Bonjour Bernard.
Emmanuel, aux États-Unis, donc nous sommes maintenant à moins de 40 jours de la présidentielle, je vous rappelle que c'est le 3 novembre, et avant leur premier débat télévisé de mardi prochain, les deux finalistes, M. Trump et M. Biden, tentent de mobiliser leur camp à travers la bataille de la Cour suprême. Quelle est cette bataille?
Qui doit désigner celui ou celle qui va succéder à la doyenne des juges Ruth Bader Ginsburg, vous savez, l'icône féministe qui a disparu la semaine dernière et dont les funérailles avaient lieu hier? Eh bien, c'est la question qui passionne les États-Unis depuis 8 jours et à laquelle Donald Trump a déjà répondu puisqu'il annoncera son choix demain après-midi à 17h heure de Washington. Alors, on sait que le président américain hésite entre 5 noms. 2 femmes se détachent. Une magistrate de 52 ans, Barbara Lagoa, née en Floride, d'origine cubaine, et qui a fait dire à Donald Trump « Elle est hispanique, c'est une femme formidable ». Et surtout la très traditionnaliste Amy Coney Barrett, une juge de 48 ans, très catholique, et qui a été reçue en début de semaine à la Maison-Blanche. Alors le président républicain a décidé de nommer le 9e juge à la Cour avant le scrutin de novembre, même s'il reste seulement 38 jours, alors que le délai moyen entre l'investiture de la confirmation par le Sénat est de 69 jours.
Oui.
Donald Trump ne veut pas laisser passer l'occasion de renforcer la majorité conservatrice à la Cour suprême. Il peut déjà compter sur la diligence du Sénat, où la majorité républicaine est prête à confirmer le choix présidentiel. Même l'ancien candidat Mitt Romney, d'ordinaire très critique vis-à-vis de la Maison-Blanche, a annoncé qu'il ne ferait pas obstacle à la procédure. Alors évidemment, les démocrates s'étranglent, ils crient au quasi-coup d'État, alors qu'en 2016, face à Barack, les républicains avaient estimé 8 mois avant l'élection qu'il fallait attendre le verdict des urnes avant de nommer un nouveau juge.
Oui, mais ça c'était en 2016 et nous sommes en 2020. Question annexe tout de même, Emmanuel Faux. Pourquoi y a-t-il une telle focalisation sur la Cour suprême des États-Unis?
D'abord, Bernard, c'est le temple du droit américain. C'est la plus haute instance qui est amenée à trancher des questions de société difficiles et sensibles que l'avortement ou le droit de porter des armes. Sans oublier l'Obamacare, la grande réforme de la couverture maladie que Donald Trump n'a pas réussi à torpiller au Sénat et qu'il rêve encore de démanteler grâce à une majorité conservatrice à la Cour suprême. Par ailleurs, le fait de mettre le projecteur sur la nomination d'un nouveau juge républicain, de donner des gages à son électorat, de rappeler qu'il est toujours aux commandes du pays et de faire diversion devant l'ensemble de la nation. Car pendant qu'on parle du successeur de Ruth Bader Ginsburg, la gestion de la pandémie passe évidemment provisoirement au deuxième plan. Et puis, cela dit, vous parliez du débat télévisé tout à l'heure, Bernard, oui, qui opposera les deux candidats. Ce sera donc la semaine prochaine. Il y en aura 3 en tout d'ici le 3 novembre. On sait que les grands sujets du moment vont ressurgir à l'occasion de ce duel organisé à Cleveland, dans l'Ohio. On parlera de la pandémie, de l'état de l'économie américaine, des questions raciales, de la violence sur lesquelles le locataire de la Maison-Blanche est très attendu et qui risque de lui coûter une partie de son électorat blanc de 2016. Donc, même si Donald Trump va devoir rendre des comptes sur le bilan de son mandat, là, il est évident que le feuilleton de la Cour suprême est pain béni pour lui parce qu'il le représidentialise et un peu d'ascendant sur son adversaire démocrate Joe Biden qui est actuellement en tête dans les sondages.
Oui.
Apparemment, mais en fait, ce n'est pas si anecdotique que cela, avec une Cour suprême au complet et à sa main, le président républicain disposera d'une arme redoutable s'il décide de contester le résultat de l'élection et de partir en guerre contre le vote par correspondance comme il a déjà commencé à le faire. L'ombre des 9 juges les plus puissants des États-Unis pourra ainsi planer comme jamais sur le scrutin du 3 novembre.
Merci beaucoup Emmanuel Faux pour cette analyse donc de l'enjeu à la Cour suprême des États-Unis et pardonnez-nous pour la très mauvaise qualité de la liaison technique puisque vous étiez par un moment haché Emmanuel Faux, mais ça ira mieux lundi, j'en suis persuadé. Il est 7h48 exactement sur Radio Classique. Bienvenue si vous ouvrez un œil. Vous êtes sur cette antenne et dans un instant avec Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. À sa façon, il revisite la polémique sur la tenue vestimentaire des lycéens et le débat ne date pas d'hier.